Alors, Hélène a donné les sources qui m'ont été utiles, qui sont des cahiers de brouillon qui contenaient la correspondance de Cantor. Et ces cahiers, je les ai trouvés, comme tout le monde, aux archives universitaires de Göttingen, où je les ai transcrits et en partie traduits, tout au moins ce qui concernait la correspondance avec des Français. Malgré le caractère lacunaire des documents que j'ai examinés, cette correspondance s'échelonne quand même sur une dizaine d'années, entre 1886 et 1896, et devient de plus en plus dense vers la fin, c'est-à-dire dans les années 95-96. C'est donc effectivement une vingtaine d'années après la guerre de 70-71. Après ce travail, il a fallu des recherches assez longues pour replacer cette correspondance dans le contexte historique de la fin du XIXe, et qui font l'objet d'une grande partie de l'ouvrage qui est exposé ici et du système de notes. Ce contexte est encore très profondément marqué par la guerre franco-allemande de 70-71 et la quasi-rupture des relations scientifiques entre les deux pays qui sont suivis. Cependant, c'est l'un des intérêts de cette correspondance de Cantor, nous voyons, avec les interlocuteurs français, nous voyons s'installer des relations détournées, impulsées par les nécessités scientifiques de l'époque. Un autre aspect, c'est l'approfondissement de la pensée de l'auteur, qui constitue un aspect original du travail que l'on peut effectuer sur une correspondance, et je pense que Joël approfondira cette question. Il faut savoir que Cantor est mathématicien de génie, et qu'il est à l'origine de la théorie des ensembles, qui joue un rôle fondamental en mathématiques, et qu'il a introduit l'étude des nombres infinis dans le raisonnement logique, nombres qu'il appelle les transfinis. Au fil de sa correspondance, nous découvrons l'universalité de son projet et en même temps sa cohérence. Ce projet a des liens multiples avec la métaphysique, avec la philosophie, l'épistémologie, la pédagogie, etc. Et il présente une puissance libératrice quasi sans limite, au point d'ébranler les certitudes académiques et de dépasser les nationalismes étroits. Donc j'avais devant moi fort à faire pour établir des commentaires à peu près cohérents. Je me suis intéressée à ce que j'ai appelé les combats de Cantor, c'est-à-dire ceux qu'il mène au sein du monde universitaire lui-même, aussi bien pour la reconnaissance de son œuvre que pour l'instauration d'institutions internationales durables en mathématiques. Ses interlocuteurs français sont ici de grands noms de la science, comme les académiciens Charles Hermite, Camille Jourdan, Henri Poincaré, ou le sous-directeur de l'École normale supérieure, Jules Tannery, son frère Paul Tannery, philosophe et historien des mathématiques. Sur ces thèmes, la correspondance s'établit aussi, et c'est tout à fait remarquable, avec des mathématiciens moins connus sur le front avancé des connaissances, comme les polytechniciens Charles-Ange Lézan ou Émile Lemoine, liés au mouvement associatif de l'époque. Par mouvement associatif, je veux parler de l'Association française pour l'avancement des sciences et de la Société mathématique de France, toutes deux fondées en 1872. La date est parfaitement significative aussi. Des questions se posent à la lecture, évidemment, de ces lettres. Quelle est la nature des liens que tisse Cantor avec d'autres intellectuels qui sont des catholiques français, en particulier le recteur de l'Institut catholique de Paris, Mgr Dulst, avec le monde étrange de l'occultisme, représenté par le fameux Papus, pseudonyme de Gérard Rancos, de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. Les réponses se trouvent bien souvent dans les nombreuses références philosophiques et théologiques dont les lettres de Cantor sont émaillées et dont nous tentons d'analyser la cohérence. Enfin, un seul thème mathématique transparaît, il est abordé dans les lettres avec les Français, il s'agit des travaux de l'auteur concernant la conjecture de Goldbach en théorie des nombres. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis prête à répondre à toute question concernant cette conjecture, dans la discussion tout à l'heure. La pensée de l'auteur frappe donc par sa richesse et par sa diversité. En confiance avec ses interlocuteurs, Cantor s'exprime librement sur le plan philosophique avec Paul Tannery, sur le plan théologique avec Charles Hermite ou sur l'internationalisme scientifique avec Henri Poincaré. Cette liberté de ton est une spécificité de la correspondance avec les Français.